Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ils savent pas qu'on est à l'antenne. 19h01, nous sommes à l'antenne.
Ah, pardon,
oui, nous sommes en direct.
Bonsoir à tous.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
19h01, Mickaël de Santos pour les infos du soir. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir, Christine. Bonsoir à tous. Le gouvernement désamorce la bombe sociale des zones à faibles émissions. À partir du 1er janvier 2025, 41 métropoles pourront choisir d'autoriser la quasi-totalité des véhicules à circuler, même ceux qui disposent d'une vignette critère 3. Les restrictions anti-pollution sont maintenues à Paris et à Lyon. Saisie record pour la marine française, la semaine dernière, plus de 10,5 tonnes de cocaïne ont été interceptées sur un bateau de pêche brésilien dans le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique. La valeur de la marchandise est estimée à près de 695 millions d'euros. Enfin, en Afghanistan, les filles de plus de 12 ans sont toujours privées de rentrée scolaire. Pour la troisième année consécutive, les talibans au pouvoir ont interdit leur présence dans les collèges du pays. Les Nations Unies qualifient ce bannissement unique au monde d'injustifiable et préjudiciable.
Merci beaucoup, Michael. Dans un instant, j'ai une petite photo à vous montrer, mais je commence par le sommaire. Je sais que vous avez envie de la voir, mais chut, tenez-vous prêts. Le sommaire. Au sommaire ce soir, les partis souverainistes devraient faire une percée inédite lors des prochaines européennes. À lire dans Le Figaro qui publie un sondage en ce sens. Percée sans grande vague, pour autant. Est-ce une prise de conscience des pays en Europe de la réalité des enjeux vus par l'Union européenne? En clair, ces élections européennes seront-elles les plus importantes de l'histoire? L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le chef de l'état-major de l'armée de terre déclare que la France peut engager 20 000 hommes en 30 jours, il assure que l'armée se tient prête. Que comprendre? La Russie a pourtant déjà mis en garde la France contre le possible envoi de troupes en Ukraine en brandissant la menace nucléaire. Le directeur du renseignement russe a affirmé que 2 000 soldats français avaient déjà été envoyés en Ukraine. La France dément. À quoi nous prépare-t-on avec toutes ces infos et ces intox? L'analyse de Guillaume Bigot. Il a tracé son sillon à l'ombre d'un grand homme. Les mots d'Emmanuel Macron en hommage à Philippe de Gaulle. S'il n'avait pas été le fils du général, l'amiral de Gaulle aurait été loué comme l'un des grands militaires de l'histoire de France. Qui est ce héros méconnu? Le regard de Marc Menon. Tolérance zéro pour la fraude sociale, a déclaré Gabriel Attal aujourd'hui. Le gouvernement s'est félicité des records de mise en recouvrement des fraudes fiscales et sociales en 2023. Le Premier ministre a rappelé une philosophie claire pour la fraude sociale. Plus de contrôle pour plus de sanctions. Il voulait doubler les redressements et atteindre 3 milliards d'euros de préjudice détectés et éviter par les CAF et l'assurance vieillesse d'ici 2027. La fusion des cartes d'identité et cartes vitales sont une priorité. En quoi cela aidera-t-il à avancer? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis pourra-t-on exposer publiquement les visages des voleurs captés par vidéosurveillance? Un député MoDem veut déposer une proposition de loi en ce sens. Cette pratique est interdite alors que la délinquance augmente et que les vols à l'étalage se multiplient. Peut-on y voir le droit accordé aux victimes de se défendre? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse. Guillaume Bigot est là ce soir. C'est parti. Beaucoup de sujets ce soir. On va commencer par cette photo avec ce tweet de Sandrine Rousseau qui a réagi à la photo publiée par la photographe officielle d'Emmanuel Macron. Ces codes virilistes utilisés jusqu'à l'overdose, quelle misère du politique, déclare-t-elle. Quelle défaite du progressisme et quelle indigence de la communication politique. Qu'en pensez-vous, Mathieu Bocoté?
Nous sommes manifestement devant une mise en scène de la virilité présidentielle qui fait penser à une autre scène d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous, lors de sa rencontre première avec Donald Trump, la poignée de main, c'était à savoir qui allait lâcher la main de l'autre le premier, qui allait gagner cette partie de bras de fer. On sait que c'est aussi à la mode à Moscou. Vladimir Poutine aime mettre en scène sa virilité. Donc finalement, vous savez, c'est la vieille passion de l'être humain pour montrer qui a le plus gros sac sur lequel frapper. Et par ailleurs, je me demande, quand Emmanuel Macron voit ce sac, à qui pense-t-il? Est-ce qu'il pense au RN? Est-ce qu'il pense à Poutine? Est-ce qu'il pense aux Américains? À quoi pense-t-il lorsqu'il frappe?
On peut avoir des petites idées. Charlotte Dornelas.
Non, mais sans faire d'analyse, moi, c'est son visage, je sais pas, elle m'a mis mal à l'aise, cette photo, pour tout vous dire. La mise en scène est un peu... Moi, ça m'a rappelé les mises en scène, pour le coup, de Poutine, de son ennemi du moment, de Poutine qui se mettait en scène comme ça. Mais j'avoue que je n'avais pas vu le tweet de Sandrine Rousseau. Et le fait qu'elle ne souligne que les codes virilistes, je ne sais plus quoi penser de tous ces gens et de leurs réactions. Voilà.
Moi, je pensais que les présidents de la République aimaient après faire des conférences dans le monde très bien payées. Je ne savais pas qu'ils étaient, qu'ils faisaient des publicités pour des salles de sport. Enfin, je trouvais ça assez curieux. C'est hors sujet, surtout.
Je dirais qu'il fait simplement, on est à un moment crucial juste avant les élections, il fait une mise au point.
Oh, joli.
Excellent, joli. Alors, commençons, Mathieu Bocoté. Les élections européennes qui se tiendront le 9 juin seront-elles les plus importantes de l'histoire? C'est une impression qui s'impose de plus en plus. Marion Maréchal, lors d'un débat hier avec Jean-Louis Bourlange, parlait de la colonisation de l'Europe. Le Figaro aujourd'hui parle de la montée des partis souverainistes à la grandeur de l'Union. Et le Bloc central en appelle à une Europe souveraine et se présente comme le seul gardien de l'avenir de notre civilisation. Sommes-nous vraiment, avec ces élections à venir, à un tournant de l'histoire ?
Un tournant de l'histoire, je ne saurais dire, mais ces élections sont assurément les plus importantes dans l'histoire des élections européennes.
Ah oui.
Pour une raison... Je dirais tout simple, c'est que c'est la première fois que on passe en fait d'élections nationales à prétexte européen. Donc c'était les élections présidentielles du pauvre. C'était l'occasion pour des partis plus marginaux de percer le temps d'exercer. En fait, derrière le mode de scrutin favorisait la percée de partis, de mouvements qui autrement ne parvenaient pas à s'imposer dans la vie politique nationale. Donc c'était jusqu'à présent, ils étaient pleinement intégrés au système national. Et là, ce qu'on voit, c'est que même les critiques les plus virulents de l'Europe, même les eurosceptiques, même les souverainistes disent qu'il y a une portée européenne à ces élections européennes. Ce n'est pas qu'un moment de la politique nationale. Ça doit permettre non seulement de contenir l'Europe ou de la déconstruire, mais ça doit permettre de l'orienter autrement. Donc, c'est une autre Europe est possible, pourrait-on dire, dans le discours même des partis dits souverainistes. Ce qui émerge avec ça, et je pense que c'est très important, et j'y reviendrai dans un instant, c'est la conscience politique d'une civilisation européenne, une forme de patriotisme européen, je dis ça sans vouloir vexer mon ami Guillaume, je ne le dis pas en l'applaudissant ou en désolant, mais en constatant que quelque chose comme une conscience de civilisation prend forme politiquement, et pas seulement à cause du problème russe à l'est de l'Europe. Je vais citer, vous l'avez mentionné, Marion Maréchal qui, dans un échange de bonne tenue avec Jean-Louis Bourlange, franchement, Jean-Louis Bourlange, quoi qu'on pense de ses idées, c'est un homme très intellectuellement construit, de qualité. Marion Maréchal était devant lui et l'échange était de qualité. C'est sur le Figaro Live, ça vaut la peine de le regarder. Donc, elle a cette phrase. « Je me réveille à 34 ans dans une Union européenne devenue une colonie numérique des USA, une colonie économique de la Chine, une colonie démographique de l'Afrique, en passe de devenir une colonie religieuse de l'islam. » Fin de la citation. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? C'est l'autre nom d'une prise de conscience que l'Europe n'est plus le centre du monde. L'Europe, depuis 1492, donc depuis les grandes découvertes, jusqu'à tout récemment, croyait se confondre avec l'universel. L'Europe, c'était l'universel. L'Europe, c'était les droits de l'homme. L'Europe, c'était les valeurs humanistes pour l'ensemble de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'Europe est aujourd'hui un pôle important, mais n'est plus le seul pôle d'organisation de la planète. Et même, donc, la mention des États-Unis, une colonie numérique des USA, ça veut dire les USA et l'Europe ont de moins en moins les mêmes intérêts. C'est important de le mentionner. Une colonie économique de la Chine. Alors là, on parle du grand adversaire de demain, la puissance qui monte. Une colonie démographique de l'Afrique. La formule est forte, mais ça parle évidemment de l'immigration massive. Et on pourrait même évoquer le choc des civilisations, de même lorsqu'on parle d'une colonie religieuse de l'islam. Donc, ce qui est intéressant dans cette formule de Marion Maréchal, et qui va au-delà évidemment de Marion Maréchal, c'est que l'Europe, autrement dit, ne peut plus se penser simplement dans le langage des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État social, Certains croient que c'est le cas. Elle se pense désormais de plus en plus une conscience de son identité de civilisation, de sa singularité de civilisation, de ses intérêts de civilisation. Et dans cette logique, l'Europe doit se demander quels sont nos intérêts. Est-ce que nous avons des intérêts européens en tant que tels? Est-ce que nos nations, et non pas la purée européiste, mais est-ce que nos nations qui forment ensemble une civilisation ont quelque chose comme des intérêts partagés? C'est une question qui se pose de manière assez intéressante. Et de ce point de vue, il y a un changement de doctrine chez les partis dits souverainistes. Les partis souverainistes, traditionnellement, disaient il faut stopper la croissance de l'Europe, il faut limiter la présence de l'Europe, il faut restaurer le pouvoir de nos nations. Et là, ce qu'on voit, c'est que les partis dits souverainistes eux-mêmes cherchent à s'approprier positivement les institutions européennes. Non pas comme les européistes, mais disent il y a quelque chose à faire avec l'Europe. Donc, de ce point de vue, il y a un tournant stratégique et idéologique qui n'est pas sans intérêt.
Alors, cette conscience de l'Europe civilisation, est-ce qu'elle n'entraîne pas l'effondrement du clivage entre souverainistes et fédéralistes qu'on a connu depuis près de 30 ans?
On se pose la question, hein, parce que c'est un clivage qui s'est imposé sans porter ce nom dès la fin des années 70. Rappelez-vous le très beau discours de Jacques Chirac, le drame des discours de Jacques Chirac, c'est que normalement, il se trahissait ensuite. Mais l'appel de Cochin, si cet appel avait été entendu, l'histoire de l'Europe serait tout autre. Donc, il plaidait véritablement pour une Europe virile. Gaullienne, une Europe gaulliste, en fait pour une France qui ne se soumettrait pas à l'européisme. Ensuite, au début des années 90, il y a le tournant de Maastricht. Et là, qu'est-ce qu'on voit à ce moment? Eh bien, émerge le souverainisme à l'européenne, qui se pense de la manière suivante, c'est une défense des États-nations. Donc, on doit défendre l'État-nation contre la technostructure européenne, on doit défendre les États-nations contre toute forme d'empiètement sur leur souveraineté. Et la résistance au Parlement européen et dans les nations se brandira le drapeau du souverainisme. Le débat a évolué, tout simplement parce que les institutions européennes, par effet d'inertie, par le passage du temps, façonnent de plus en plus nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez les souverainistes? Ils disent, bon, idéalement, on pourrait souhaiter en sortir. Ils le disent souvent, dans un monde idéal, on ne reconstruirait pas cette Europe-là. Mais puisqu'elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Il y a toujours chez eux une part de spéculation historique. Ils disent, il se pourrait que l'Union européenne, comme tous les ensembles supranationaux technocratiques, finissent par se décomposer. C'était vrai de l'URSS, c'était vrai d'autres entités dans l'histoire. Les empires finissent normalement par se disloquer. Est-ce qu'un empire européen pourrait se disloquer? Peut-être, disent-ils, mais nous pouvons nous y préparer, mais nous ne devons pas y participer activement. Donc ça, c'est un changement de doctrine. C'est ce qui nous amène à passer du fameux du Brexit au Bruxit, hein, c'est-à-dire chasser Bruxelles ou à tout le moins diminuer l'emprise de Bruxelles sur la vie des nations européennes sans pour autant abolir les structures de l'Union européenne. Mais ça peut vouloir dire d'autres choses. Ça peut vouloir dire assurer le primat du droit national sur le droit européen. Ça veut dire reconstruire l'Europe de l'intérieur. Ça veut dire contenir le pouvoir de la Commission. Ça peut vouloir dire tout un programme, mais qui n'implique pas la rupture ou la sortie formelle de l'Union européenne. Alors, vous le disiez en intro, il y a une percée annoncée, le Figaro avait un très bon dossier sur ça, des partis souverainistes à l'horizon des européennes. Partis souverainistes de deux tendances, il faut le dire. Les partis de la tendance ECR, les conservateurs et réformistes européens, qui représentent, auxquels sont associés les gens de Reconquête, Marion Maréchal, Zemmour. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'aile droite des partis conservateurs classiques. L'aile souverainiste des partis conservateurs classiques qui disent désormais l'Europe telle qu'elle se construit ne nous convient plus. Donc ils se rassemblent et ils vont avoir un poids réel au Parlement européen, un poids plus grand que historiquement, en fait, ça va être un poids inédit. Eux, ils sont à l'intérieur, je prends la peine de dire, ils sont dans le cordon sanitaire parce qu'ils sont vus comme les adversaires légitimes de la construction européenne, même par les européistes les plus fervents, parce qu'ils viennent justement historiquement du canal de la politique traditionnelle. Et il y a aussi l'autre tendance, identité et démocratie, idée, qui ça rassemble les partis de tendance droite nationale, donc le RN et d'autres. Et là, c'est des partis assez disparates, il vaut la peine de le dire, entre les partis, le parti qu'on peut trouver dans le monde germanique et les partis en France ou tout ça, c'est pas vraiment les mêmes partis, c'est pas vraiment les mêmes programmes, c'est souvent quelquefois des alliés assez embarrassants. Mais quoi qu'il en soit, c'est une autre coalition de partis souverainistes qu'on trouvera à Bruxelles. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces deux coalitions, en fait, les conservateurs et réformistes et Identité et démocratie, ces deux coalitions, personne ne croit qu'ils seront capables de créer une majorité à Bruxelles. Mais tous conviennent qu'ils deviendront des acteurs incontournables. Une chose, cela dit, et ça c'est intéressant, quand on parle du primat des nations, on note par ailleurs que dans chaque pays, c'est d'abord des déterminants nationaux qui font en sorte qu'on va voter pour un parti tendance conservateur et réformiste ou une tendance idée. Donc les déterminants nationaux orientent le vote européen, mais auront des conséquences immenses sur la formation du Parlement européen et sur le pouvoir qu'il va pouvoir qu'il réclame, surtout la Commission, pour changer le sens de l'Europe. Donc il y a aujourd'hui, disons-le simplement, une révolte des peuples en Europe qui prend plusieurs véhicules politiques, souverainistes, conservateurs, nationalistes, entre guillemets, et ces véhicules seront-ils capables de travailler ensemble? Ça, c'est une autre question.
Très intéressant de comprendre pourquoi ceux qui sont contre l'Europe postulent oui. à l'intérieur de l'Union européenne pour tenter de la changer de l'intérieur. Alors, pourtant, les partisans du fédéralisme européen ne désarment pas. Mathieu Bock-Côté, Valérie Hayer, tête de l'Est Renaissance, ne cesse de le répéter. La France a besoin de l'Europe et elle a besoin d'une Europe toujours plus intégrée.
Et vous noterez que la formule est intéressante. En longtemps, par une forme de patriotisme français transposé sur l'Europe, on disait « l'Europe a besoin de la France ». Autrement dit, nous serons la puissance qui constituera l'Europe. Et là, il y a une inversion de la pyramide des besoins. On dit désormais que c'est la France qui a besoin de l'Europe. Donc la France serait incomplète en elle-même sans la prothèse européiste, sans la prothèse européenne. Donc c'est comme si la France consentait chez certains européistes une forme de provincialisation dans l'Empire européen. Certains acceptent en fait que l'État national français soit désormais qu'une composante d'une communauté politique bien plus grande.
Premier contributeur, hein, je ferme la parenthèse.
Mais bien sûr, mais c'est intéressant ça, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc on contribue, mais au final, on dit nous avons besoin de cette structure comme si elle nous grandissait moralement. Alors, le camp européiste a toujours eu deux méthodes pour faire avancer l'Europe, comme on nous dit. Il y a la méthode Jean Monnet, c'est-à-dire la méthode des petits pas, de l'engrenage discret. Et un jour, sans s'en rendre compte, en fait, on découvre qu'en fait, sans l'avoir compris, on découvre qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres dans la direction d'une intégration plus grande. Et on nous explique que c'est pas possible de détricoter. Désolé, c'est impossible, on n'y peut rien. Et il y a l'autre méthode, qui est la méthode qui semble tenter Mme von der Leyen, mais aussi Mario Draghi, mais aussi... Là, je prononce son nom en sachant que je vais le massacrer. Guy Verhofstadt, l'homme politique...
Bien prononcé, je trouve.
Belge de mémoire, ou néerlandais. Oui, belge. Tous nous disent, là, il y a un grand saut fédéral qu'il faut faire demain. Donc, ils nous disent clairement, on ne peut plus se contenter d'une Europe qui se construit au petit pas. C'est une Europe qu'on doit constituer comme souveraineté européenne. C'est une Europe qui doit désormais transcender institutionnellement et explicitement et structurellement les nations. De quelle manière? On rêve d'une armée européenne. J'ai hâte de voir de quelle manière ça peut se concrétiser. On rêve d'un impôt européen. Déjà que les nouveaux impôts, c'est mal imaginer les nouveaux impôts européens. Ça, c'était mon éditorial fiscal. Mais on rêve aussi d'une structure de décision non plus à l'unanimité et sans droit de veto, mais à la majorité. Et quand je dis que la France serait provincialisée dans un tel scénario, c'est qu'on peut imaginer un scénario où une majorité de pays déciderait de prendre une décision et la France ne serait pas d'accord, mais elle serait engagée par la structure fédérale dont nous parlons. Non, et le bloc central, de ce point de vue, fait du grand saut européiste le cœur de son projet politique. Ce n'est plus dissimulé, c'est avoué, c'est revendiqué. On veut aller plus loin. De ce point de vue, je pense qu'il y a vraiment trois figures de l'Europe qui se dessinent pour les élections européennes. Évidemment, il y a des emboîtements l'une sur l'autre. Il y a, sur le mode souverainiste, l'Europe des nations. Les souverainistes proposent aussi l'Europe civilisation. Et les européistes, dis-je, proposent l'Europe empire ou l'Europe mondialiste, bien qu'ils prétendent eux aussi défendre l'Europe civilisation. Donc vous voyez, il y a des chevauchements dans les discours. Mais Europe des nations, Europe civilisation, Europe mondialiste, qui serait le laboratoire d'une gouvernance globale plus vaste, c'est trois figures de l'Europe qui s'opposent, alors que la construction européenne, par ailleurs, n'a jamais été aussi fragile, parce que contestée, et autoritaire, parce que fragile, elle veut se maintenir à tout prix.
Passionnant comme édito. On reviendra hein, sur ce décryptage de l'Europe et des tendances au niveau de l'Union européenne. Vous disiez, on rêve d'une armée européenne. On va parler un petit peu de l'armée avec vous, Guillaume Bigot. D'abord, déjà après les déclarations réitérées du président Emmanuel Macron sur l'envoi des troupes au sol en Ukraine, l'agence de presse russe TASS évoque l'envoi en cours de 2000 soldats français. On rappelle que c'est le renseignement russe. Hein, 2000 soldats français ont déjà été envoyés sur le sol ukrainien, intox, puisque le gouvernement a démenti fermement. Intéressant.
Oui, c'est clairement une infox, ça c'est sûr. Et l'agence TASS, l'agence officielle de presse russe, La source, vous l'avez nommée, c'est Sergueï Narychkine, c'est-à-dire c'est le patron de ce que nous on appelle la DGSE, le SVR en Russie, les services extérieurs russes. Et en fait, il s'appuie, dit-il, sur des écoutes de l'Élysée, donc il passe le message qu'en fait la Russie écoute la France. Et il dit, voilà, il y a 2000 hommes qui sont en cours d'acheminement, ils sont déjà partis sur le front. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est une réponse à ce que les Russes considèrent comme une provocation, c'est-à-dire la formule d'Emmanuel Macron, on va aller jusqu'à envoyer des troupes au sol. Et ils disent, ah bon, vous prétendez, vous allez en envoyer. Bon, on va dire, dans ce cas, on aurait dit que, un peu comme les enfants, vous avez déjà envoyé. C'est une opération que dans l'armée, on appelle les opérations psychologiques, les psy-ops, c'est de l'intoxication. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? L'intérêt de faire ça, c'est d'abord de tester les réactions de la France et des Français. L'autre intérêt, c'est de diviser l'opinion française. Et ça marche, en réalité. Ça marche parce que dans des cercles, notamment d'officiers de réserve, des gens un peu très, très pro-russes, alors ça s'agite beaucoup, les gens disent « Ah mais, attendez, le général Georges Lin qui a réparé Notre-Dame, vous l'avez vu ? Ah ben non, il paraît qu'il a glissé, etc. Ouh, c'est bizarre, il est peut-être mort sur le front ukrainien, c'est un rapport. Pourquoi Emmanuel Macron n'est pas allé, a reporté deux fois son voyage en Ukraine ? Ouh là là, c'est très bizarre, c'est très bizarre. » Eh bien, il y a une rumeur aussi qui enfle, vous savez, il y a une caserne à Chalon-sur-Saône, pas les casernes Carnot. Et là, il y a 1800 réservistes, bon, c'est assez proche des 2000 dont parle Narychkine, qui seraient embarqués dans des camions pour acheminer du matériel en Ukraine. Bon, heureusement que le ridicule ne tue pas. En réalité, pourquoi utiliser des réservistes quand on a l'armée française à sa disposition? Pourquoi acheminer à 2500 km ou à 2000 km par camion du matériel militaire quand on a des avions de transport? Tout ça est bizarre. Mais si ces infox fonctionnent, alors un peu, pas totalement, si ça fonctionne, prennent, c'est pas l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que quand même ces infox, elles s'appuient aussi sur des informations qui, elles, par ailleurs, sont tout à fait authentiques. Première information, on a déjà des troupes au sol. Alors on n'a pas énormément de troupes, c'est pas des troupes combattantes, mais, et là je parle pas, disons, des têtes brûlées à titre individuel ou des gens, des franco-ukrainiens qui sont engagés pour se battre. Non, il y a d'abord des gendarmes qui enquêtent sur les crimes de guerre, il y a des gens du renseignement, même s'ils sont très très peu nombreux, ce qu'on appelle des capteurs, enfin des commandos spécialisés dans la captation d'informations sur le terrain, mais ils sont très peu nombreux, et puis on a probablement des spécialistes pour réparer ou pour disons régler le matériel, certains tirs, etc. Bon. Et puis, il y a aussi une autre information, là, c'est une information absolument publique, ouverte, c'est le général chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, qui prend la plume dans Le Monde et qui dit, eh bien, nous sommes prêts. Voilà, c'est comme ça que c'est titré. 20 000 hommes, on peut mobiliser 20 000 hommes en 30 jours. Mais évidemment, quand on lit le papier, ce que ne font pas les complotistes, c'est pas pour les envoyer en Ukraine.
Alors là, on va décortiquer quand même ce qui se passe, parce qu'on a envie de comprendre. Ça a fait beaucoup parler. Et on va parler de plans qui sont à l'étude pour déployer des troupes françaises au sol en Ukraine. On marque une pause et on parle de ces plans. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, Mathieu Bock-Côté va nous parler de ce député Modem qui veut faire une proposition de loi pour qu'on puisse afficher la photo des voleurs. Alors, c'est intéressant parce que vous allez nous parler de ce qui s'est passé dans le métro hier. On regarde un petit extrait et on revient avec votre chronique, Guillaume. Je ne vous ai pas oublié.
Donne le téléphone et tu descends. Sans faire d'histoire, là.
Mais il sonne, je crois, il est tombé.
Il est là.
Il est où?
Il est là où?
Où ça sonne, on ne voit pas. Relancez le numéro.
Silence, silence.
Silence.
C'est le monsieur, il
est là. Donne-lui le téléphone.
Monsieur, mettez-lui le téléphone.
Donne-moi mon téléphone.
Ça sonne.
C'est lui, là.
C'est lui, là.
Mettez-lui le téléphone.
Non, non, donne-moi
mon téléphone.
Très intéressant. On en parle avec vous dans un instant. Comment la solidarité s'organise face aux voleurs? Comment faire? Que faire?
C'est une première, ça. J'ai jamais vu ça.
Ah, très intéressant.
On n'a pas reconnu tout le monde, là.
Non, volontairement, j'ai demandé de flouter. Non,
mais en général, les gens regardent leurs chaussures.
Les gens regardent leurs chaussures. Et maintenant, il y a quelque chose qui change. Les gens ont envie de se défendre. On va en parler avec vous, Mathieu, dans un instant. Revenons, Guillaume Bigot, sur les troupes au sol en Ukraine. Est-ce que vous nous confirmez que des plans sont à l'étude pour déployer des troupes françaises au sol en Ukraine?
Alors oui et non. C'est-à-dire oui, il y a des plans, mais non, ce n'est pas nécessairement des plans qui sont faits pour être mis en œuvre. D'abord, les états-majors étudient toujours tous les scénarios possibles. Et là, on peut peut-être regarder un peu plus attentivement deux scénarios qui ont un peu filtré. Qui sont à la fois des scénarios destinés à mettre un peu de densité derrière les paroles du président de la République, envoyer des troupes au sol, et en même temps qui rejoignent aussi des études qui avaient été menées dans le cadre de l'OTAN. Le premier scénario, je pense qu'on va avoir une carte. Ça consiste, voilà, à déployer des troupes, alors françaises mais pas que françaises, européennes, le long de la frontière biélorusse. Pourquoi ? Parce que c'est une frontière qui n'est pas sûre. La Biélorussie est un État satellite. Est contrôlé par Moscou. Il y a d'ailleurs des troupes russes en Biélorussie. Et donc, ça oblige les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, à immobiliser aussi 150 000 hommes le long de cette frontière. Donc, si des troupes françaises et européennes se déployaient, eh bien, les Ukrainiens pourraient aller combattre vers le front. Ça, c'est le premier scénario.
Rappelez-moi déjà vos sources. Vous dites que c'est les états-majors qui réfléchissent. Juste les sources pour être sûr de ces scénarios.
Alors, vraiment, c'est sorti dans la presse. Ce sont des sources dites ouvertes. Il n'y a pas d'authentification.
Ce sont les états-majors qui étudient ça. Okay.
Oui, et c'est quelque chose qui avait été évoqué notamment par le président de la République au mois de février. Ensuite, donc là, c'est l'idée d'empêcher, disons, ce qu'on pourrait appeler une demi-victoire de Poutine. C'est-à-dire qu'il finisse par conquérir complètement le Donbass et qu'il aille jusqu'à relier la côte jusque la Transnistrie, donc la frontière roumaine. Deuxième scénario, deuxième carte, voilà. C'est un déploiement le long de ce fleuve qui traverse l'Ukraine et qui coupe l'Ukraine suivant un axe nord-sud, le Dniepr, et qui est un fleuve très large. Et là, l'idée, c'est pas du tout de déployer des troupes pour se battre, pas plus que le long de la frontière biélorusse, mais pour créer en fait une sorte d'effet dissuasif. Et là, le but, c'est d'éviter que Vladimir Poutine prenne la totalité de l'Ukraine. C'est-à-dire, c'est son plan à l'origine de faire tomber le régime de Zelensky et de s'emparer de toute l'Ukraine et d'en faire un État vassal comme la Biélorussie. Et donc là, c'est quoi ? C'est ce que les militaires appellent la théorie du piéton distrait. Alors pourquoi le piéton distrait ? Bah parce qu'en fait, on n'envoie pas des hommes pour se battre. Ils ne seraient ni en quantité suffisante, ni suffisamment armés pour se battre. Par contre, vous êtes un piéton distrait et vous traversez, puis d'un seul coup, tiens, il y a un char russe qui vous écrase. Ah bah c'est dommage. Mais comme vous êtes une puissance nucléaire, et comme on a tué un soldat français ou un soldat européen, ça va automatiquement enclencher une escalade. D'ailleurs, c'est ce que les Américains auraient dû faire, installer des troupes avant que Poutine n'attaque, puisque comme les États-Unis sont une puissance nucléaire, jamais Vladimir Poutine aurait osé le faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire là, en Lettonie par exemple, en Roumanie ou en Pologne, on a des troupes françaises qui ne sont pas là pour se battre, mais qui sont là juste pour mourir au cas où les Russes attaquent. Comme ça déclenche automatiquement une escalade. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas raisonnable d'un point de vue, disons, de la disproportion des forces. On parlait tout à l'heure de mobilisation de 20 000 hommes en 30 jours, c'est très bien. Enfin là, il y a 600 000 hommes, les Russes ont 600 000 hommes sur le terrain. C'est pas possible. Si on parle des obus, par exemple, il y a un ordre de grandeur que tout le monde peut avoir. On en produit maintenant beaucoup plus qu'avant, on en produit 3 000 par mois. Les Ukrainiens peuvent en utiliser, en tirer jusqu'à 5 000 par jour. Donc on n'est pas du tout dans un ordre de grandeur suffisant pour intervenir.
Dernière question, donc des plans existent pour en déployer les troupes, mais dans ces conditions, comment garantir que le président Emmanuel Macron n'enverra pas de troupes françaises au sol ?
Pour la raison que je vous ai indiquée, ça paraît très peu probable parce qu'on n'en a absolument pas les moyens. Je dirais, c'est pas les Français seuls qui peuvent y arriver, même les Européens tous ensemble n'y arriveraient pas sans les Américains qui ont déjà dit à l'avance qu'ils n'iraient pas. Donc je pense que le débat est quasiment clos. Mais vous avez raison, c'est très improbable, mais c'est pas complètement impossible. C'est pas complètement impossible. D'abord, vraiment sans esprit mal placé, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité, disons, d'Emmanuel Macron à se tromper. Je ne crois pas qu'il ait fait autre chose depuis 2017. C'est vraiment, il s'est trompé, mais il est souvent revenu sur ses propres décisions pour faire l'inverse. Mais enfin, il s'est quand même beaucoup, beaucoup trompé. Donc, tout est possible finalement. Et maintenant, si on examine la logique du président de la République, pourquoi il pourrait quand même s'acharner et vouloir finalement, peut-être dans un des scénarios que j'ai dessiné, déployer des troupes ? D'abord parce qu'il s'agit
s'agit, encore une fois, si on n'a pas les moyens de combattre, de toute façon, c'est pas pour combattre, c'est pour dissuader. Première raison. Deuxième raison, l'idée, ce serait de le faire assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des comptes à rebours, c'est-à-dire que les forces ukrainiennes peuvent craquer et Vladimir Poutine envahir toute l'Ukraine. Et puis parce que, rapidement, enfin, il est probable maintenant, la mécanique est lancée et Donald Trump risque d'arriver à la Maison Blanche et là, les Européens se retrouveront seuls. Ensuite, on a déjà évoqué cette raison, on passe rapidement, mais il y a une idéologie européiste. C'est-à-dire, si vous dites l'Ukraine, c'est l'Europe et la France, c'est l'Europe, donc finalement, on est déjà en guerre dans cette logique-là. Et puis, il y a cette volonté d'assumer un rôle de leader de l'Europe. On va le voir sur la troisième carte. En réalité, la France n'est pas totalement seule dans cette histoire, puisque la France veut envoyer des troupes au sol, mais les Pays-Bas aussi. Vous voyez un certain nombre de pays de l'Est et des pays baltes. Et donc, moi, je pense que ce serait quand même quelque chose, un coup de poker extrêmement dangereux. C'est pas la roulette russe, là, ce serait presque la roulette belge. J'aurais presque une balle dans chaque barillet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend pas bien compte, mais de l'asymétrie de motivation. C'est-à-dire que pour prendre Avdiivka, qui est une commune qui fait quelques, alors c'est vrai, assez stratégique, mais quelques kilomètres, les Russes récemment ont perdu 17 000 hommes. Et ils ont probablement perdu déjà des centaines de milliers de soldats. Donc la motivation des Russes, comme celle des Ukrainiens, d'ailleurs, qui se battent dos au mur, elle est colossale. Dans la guerre, c'est pas seulement une question de moyens militaires qu'on n'a même pas, c'est surtout et d'abord une question de motivation. Si le territoire français a été envahi, évidemment qu'on se battrait. Enfin, j'espère. En tout cas, là, qui ira risquer sa vie pour une espèce d'idéologie européiste ? Ça paraît complètement fou. Et Dominique de Villepin a raison de dire que ce sera en plus extrêmement dangereux, parce que si la France, la Grande-Bretagne, par exemple, y aller sur le terrain, pourrait se retrouver dans un conflit chaud, dans un conflit donc conventionnel entre deux puissances nucléaires. Donc j'espère, pour conclure, que c'est du bluff. J'espère qu'il s'agit du fameux effet drapeau pour pas complètement avoir une déroute, subir une déroute aux européennes. J'espère qu'il s'agit peut-être aussi des propres européennes, personnelles d'Emmanuel Macron, qui se dit, bah tiens, un jour, si je veux être président d'Europe, c'est bien de se mettre les Polonais de mon côté, les Baltes de mon côté, les Tchèques de mon côté. Et peut-être qu'aussi, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et là, il pourra dire, regardez, j'ai été ferme, c'est grâce à ça que Poutine a été à la table des négociations. Et il y aura malheureusement des gogos pour le croire.
Merci beaucoup pour votre regard. On espère des négociations de paix, en tout cas.
Espérons-le.
Il a tracé son sillon à l'ombre d'un grand homme. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de l'hommage de Philippe de Gaulle aujourd'hui. Et s'il n'avait pas été le fils du général, l'amiral de Gaulle aurait été loué comme l'un des grands militaires de l'histoire de France. C'est intéressant parce que quand on était dans le bureau cet après-midi, vous vous disiez, n'arrêtez pas de tarer des loges à son sujet. À quel point sa carrière vous fascine ?
Ah oui, c'est pour moi l'un des plus grands militaires de toute l'histoire des armées françaises. Alors parce que juste avant l'extrait de phrase que vous venez de formuler du président Macron, il disait le marin, le résistant, l'élu de la République. Ça m'a crispé, ça m'a agacé, ça m'a enragé. Le résistant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il n'a jamais été résistant.
Mais j'ai vu sur le site de France.
Non, mais tout le monde a repris ça. Ben voilà, ça montre bien.
C'est un hommage à un résistant.
Ben, il n'est pas un résistant. Il est un homme des forces françaises libres. C'est un militaire, c'est un homme qui porte uniforme, c'est un homme qui obéit à des ordres, c'est un homme qui va non seulement participer à la guerre dans des forces armées en ayant des rôles prépondérants. Je vais les évoquer dans un instant. Mais ça me paraît essentiel, c'est le diminuer que de dire il était résistant. Non pas que les résistants aient joué un petit rôle, mais les résistants étaient des gens qui bricolaient dans leur coin, comme ils le pouvaient, une façon de narguer les Allemands et d'espérer un jour déjouer la place qu'ils avaient prise dans notre patrie. Voilà, c'est important de le dire. Alors, il signifiait, ça n'a pas été drôle d'être le fils du général, ni moi ni ma mère, ne pouvions rien dire. Ah bah oui, vous imaginez. Le général, il naît, lui, le Philippe de Gaulle, en 1921. Dans une famille bourgeoise, les de Gaulle, on est là-haut, dans le Nord. Chez ces gens-là, monsieur, à table, on se tait, silence. On attend que le grand homme entre. Il n'est pas encore général, il en est bien loin. Mais déjà, il a brillé en tenant, entre autres, un rôle dans la guerre de 14, et après, il sera l'un des militants qui dit, mais si
demain, il y a une autre guerre, il la sentait poindre, il faudra avoir des chars. Il faut que nous ayons des chars. Personne ne l'écoutera, si je puis dire. Et c'est l'un des éléments qui est intéressant, parce que lorsque le jeune Philippe va se mettre dans la tête de devenir un jour soldat, d'abord, c'est avec Napoléon. C'est pas en copiant papa. Ah non, non, non. Il a les soldats, il les met en position, il connaît par cœur toutes les grandes batailles de l'empereur. Et hop, il organise et il les fait gagner. À table, on se tait. Et un jour, il a 10 ans, il dit « Combien papa gagne par mois ?» Et là, le général dit « On ne parle pas d'argent quand on est un enfant. Un enfant ignore tout de l'argent car il n'en gagne pas, alors on se tait. » Voilà ce qui se passe à la table de Gaulle. Et alors, on pourrait se dire, de temps en temps, il y a une compensation. Il y a la petite maman qui le prend dans ses bras. Non. Quand on lit les écrits de Philippe de Gaulle, il dit « Ma maman avait une dévotion totale pour mon père. Il n'y avait que lui qui comptait. » Et puis, ma petite sœur, Anne, née 6 ans plus tard, et vous savez, qui était une enfant trisomique. Et le général s'occupait de cet enfant. Le petit Philippe, il regardait simplement les devoirs, et quelle est cette mauvaise note ? Là, il y avait la réprimande. Ce qui a conduit le jeune Philippe à de très brillants résultats. Il fait Stanislas, il obtiendra 2 baccalauréats, il a 19 ans, et il se voit déjà à l'école navale, alors que le père a dit « Tu feras ton droit ». Il n'est pas question de droit. Pour la première fois, il se dresse devant le général. Il faut dire que quand il est devant lui, c'est nez à nez. Ils ont tous les deux cette proéminence et il a osé tenir tête. Il veut faire naval. Malheureusement, c'est la guerre. Et à la fin de la première partie du concours, tout est arrêté. Le père disparaît, le voilà en Angleterre. Il reste avec sa maman et ses 2 sœurs. Et le 18 juin, il est sur un bateau parti de Brest. Une sorte de vieux cargo qui le conduit en Cornouailles. Et c'est là-bas, en Cornouailles, qu'il voit qu'il y a un général français, de Gaulle, son père, qui a appelé à la résistance ceux qui se trouvent sur le territoire. Là, il entre dans les forces libres. Et d'ailleurs, l'aide de camp du général dira « C'est le premier compagnon !» C'est le premier compagnon. Mais jamais le général n'acceptera de lui donner cette distinction. Ah, c'est la hantise du général. Il n'est pas question que ce soit le fils d'eux. Non, non, mais il ne s'en préoccupe pas. Là, il fait ses classes. Le voilà dans la marine anglaise, puisqu'il y a une sorte de filiation qui se fait. La marine française est restée encore sous Darlan et elle essaie de tenir. Il y aura les drames avec la flotte qui est coulée, mais néanmoins, il y a une unité qui se forme. Il participera à toute l'ascension, sortira enseigne de vaisseau, et on le verra. Dans toutes les grandes batailles, il sera au débarquement au mois d'août en 1944. On le verra, la libération de Paris, quand il s'agit d'envoyer un officier à l'Assemblée nationale pour obtenir la reddition des Allemands, c'est lui qui s'y rend sans armes, car il n'est pas question de la provocation. Il obtient la reddition et il est avec Leclerc. Il libérera Strasbourg. Il sera au pied du nid d'aigle. C'est incroyable la carrière de cet homme. Et il est devenu pilote d'hydravion. Il deviendra après la guerre pilote de chasse, pilote d'hélicoptère. Il participera à la guerre du Tonkin. Il sera ensuite la guerre d'Algérie et il est pilote de chasse quand il fait une intervention pour détourner l'avion où se trouvent les leaders du FLN, dont Ben Bella, et c'est lui qui est aux commandes de cet avion. Vous vous rendez compte, la carrière de cet homme, il est sur le canal de Suez. Il sera également breveté commando, sous-marinier. Et c'est, je n'ai jamais vu un homme aussi éclectique en matière d'armes. Et c'est cet homme, on dit, il serait dans l'ombre de son père. Il finira amiral, et amiral sans avoir obtenu la moindre aide du général. Il est dans la marine, et c'est vrai que les marins n'aiment pas trop le général. Il terminera, après on le verra sénateur. Lorsque l'âge l'emportera, eh bien, il se trouve aux Invalides. Mais notons aussi que ça a été un très très grand artiste. Il a réalisé plus de 5000 toiles. C'est lui qui a fait les billets de banque, le billet de Victor Hugo de 500 francs, le billet de Richelieu, c'est Philippe de Gaulle. Si vous avez ces billets chez vous, eh bien, toute la collection avec Molière, c'est sorti de la plume de cet homme qui avait tout appris, je dirais, dans sa jeunesse. C'était sans doute une façon d'échapper à la crainte d'être l'ombre de son père.
Merci beaucoup pour ce merveilleux portrait de Philippe de Gaulle. Si vous avez ces billets, j'ai une petite adresse à vous donner. Tolérance zéro pour la fraude sociale, a déclaré Gabriel Attal aujourd'hui. Le gouvernement s'est félicité des records de mise en recouvrement de fraude fiscale et sociale en 2023. Charlotte Dornelas, que faut-il en retenir exactement? On va parler de la fraude fiscale et de la fraude sociale.
Oui, alors on va commencer par la fraude fiscale. Vous savez, Gabriel Attal, alors il faut suivre son parcours qui a été un peu éclair ces derniers mois, mais il y a un an, il était au compte public et il avait annoncé donc ce grand plan de lutte contre les fraudes.
Tout à fait.
À l'époque, ne voulant pas opposer la fraude fiscale et la fraude sociale, comme tout le monde fait pour éviter de traiter les deux, hein, à la fin. Et il est depuis devenu Premier ministre. Il a annoncé en effet des niveaux jamais atteints, des niveaux historiques. Bon, c'était très grandiloquent, mais il a annoncé quand même les mises en recouvrement de la fraude fiscale qui ont atteint 15,2 milliards d'euros. Alors, il a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'avait jamais atteint ce niveau-là. Alors, c'est vrai, mais c'était 14,6 milliards l'année dernière. C'est pas non plus la hausse. Mais bon, c'est vrai que ça progresse et en cette matière, toute progression est bonne à prendre. Et il a rappelé vouloir être intraitable sur, je le cite là, les gros schémas de fraude pour alléger la pression sur le petit contribuable. Il n'a cessé, et ça m'a fait penser à la chronique de Dimitri hier, vous savez, où la lutte contre la dette revient à la mode ou arrive à la mode. Eh bien, il a énormément insisté sur le fait qu'il luttait contre la fraude par justice pour le contribuable français. Alors après, il faudra voir si cet argent, en effet, rend justice au contribuable français. Ce sera peut-être l'étape numéro 2.
Ce sera peut-être la chronique de Mathieu.
Voilà, mais il est important, en effet, de garder à l'esprit qu'il évoque des gros schémas de fraude et non pas, il ne s'attarde pas sur des cas individuels de fraude. Et il a précisé, par ailleurs, que de très nombreux contribuables ont bénéficié d'annulations de pénalités sur la base de la bonne foi. Vous savez, c'est une loi qui date notamment de 2018. Où vous pouvez plaider votre bonne foi ou l'erreur au moment de votre déclaration fiscale. Et donc là, en l'occurrence, c'est au contentieux. Vous faites un recours et c'est étudié. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que c'est aussi une manière de lire cette nouvelle et de lire le chiffre. Parce qu'il s'agit en l'occurrence du montant des redressements et des pénalités dans lequel nous trouvons toutes les erreurs du contribuable. Et donc qui ne relève pas de la fraude. On parle de fraude fiscale, en l'occurrence, quand vous avez une pénalité de plus de 40%. Quand l'État annule la pénalité parce qu'il reconnaît votre bonne foi, c'est pas considéré comme de la fraude fiscale. Alors c'est en recouvrement, mais c'est pas de la fraude. Et il se trouve que là, cette année, j'ai pas la proportion, mais en 2022, il y a seulement un tiers du chiffre affiché qui relevait réellement de la fraude fiscale détectée. Donc vous voyez que et par ailleurs, oui, autre information importante, ces montants de redressement, ils peuvent être contestés par la personne, en l'occurrence, qu'il vise, devant le juge de l'impôt. Et ça n'est pas du tout anecdotique ou rare, puisque l'État a provisionné tout simplement 20 milliards d'euros pour rembourser éventuellement le contribuable qui serait redressé à tort.
Donc 20
vous voyez
combien
que c'est 20 milliards. Donc c'est un contentieux qui existe beaucoup. Donc c'est à la fois un chiffre qui augmente, de fait, à la fois dans la détection et dans les demandes de recouvrement, donc de l'argent qui peut-être reviendra à l'État. Mais il y a aussi au milieu tout le contentieux et le droit à l'erreur du contribuable français.
Ce qui est intéressant, Charles Dornelas, c'est que Gabriel Attal, il a toujours voulu lutter contre toutes les fraudes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Et il s'attaque également donc à la fraude sociale. Qu'en est-il sur ce volet que justement certains critiquent?
C'est vrai que ceux qui critiquent toujours, vous savez, c'est la chasse. On parle de fraude sociale et on nous répond chasse aux pauvres ou chasse aux étrangers. Alors déjà, je note que l'amalgame fait entre les pauvres et les fraudeurs, je leur laisse hein, pour commencer. Et ceux qui critiquent n'ont pas l'air de comprendre que, il y a les prestations sociales en France, c'est 900 milliards d'euros de budget. 900 milliards. Donc même si vous avez un degré de fraude assez normal, on va dire de quelques pourcents, c'est directement des sommes énormes qui pèsent sur ceux qui payent des impôts, qui ne sont pas tous richissimes, hein, puisque les gens richissimes sont rares en France. Donc, évidemment, et par ailleurs, c'est une question de justice élémentaire, puisqu'il y a une très forte redistribution de cet argent-là, il est quand même normal qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de fraude sur ce terrain. Par ailleurs, j'ajoute à ça, qu'ils ont l'air d'oublier surtout qu'il y a des organisations à la fraude sociale avec des montants absolument dingue. On en avait parlé, on avait parlé d'un sur ce plateau l'année dernière qu'on avait décortiqué. C'était un réseau qui avait détourné, par exemple, 8 millions d'euros au département du Val-de-Marne, qui est pas un département richissime, qu'on ne peut pas à la fois nous expliquer que c'est des départements pauvres qui n'arrivent pas à s'en sortir et ne pas vouloir lutter contre la fraude sociale dont se rendent coupables tous ces réseaux. Et par ailleurs, entre en effet la dette et les prélèvements obligatoires, il est quand même normal que la fraude soit jugée insupportable par les gens représentant ceux qui se plaignent des prélèvements obligatoires et de leur augmentation permanente. Ça me semble tout ça assez cohérent.
Ce qui contribue.
Et assez juste, exactement. Et là, Gabriel Attal parle de résultats qui dépassent même tous les objectifs qu'il avait fixé l'année dernière, donc il a fixé des objectifs encore plus forts pour l'année prochaine. Et ce qu'on constate surtout, et ces dernières années, on n'a pas attendu cette année-là, mais depuis ces dernières années, c'est que l'évaluation de la fraude, vous savez, il y a une bataille en permanence sur les chiffres. On avait notamment Charles Prats qui avait parlé, beaucoup de gens lui avaient répondu qu'il disait n'importe quoi, et que peut-être c'était entre les deux. Mais ce qu'on a constaté avec la Cour des comptes, qui le fait avec les fourchettes, etc., et puis avec des chiffres ultra vérifiés, c'est que à mesure que vous augmentez les contrôles, l'évaluation de la fraude augmente. Pour vous donner une idée, la Cour des comptes estimait à 2,5 milliards cette fraude il y a 10 ans. L'an dernier, elle l'estimait entre 6 et 8 milliards. Et là, à mesure que les contrôles se renforcent, il y a des augmentations dans des demandes, les mises en recouvrement, et donc dans l'évaluation de cette fraude. Là, en l'occurrence, il y a 2 milliards de fraudes qui ont été détectées. Il y a un recouvrement des fraudes aux prestations et aux cotisations qui sont de 1 milliard. Donc ça n'est pas rien, hein, qu'on ne m'explique pas non plus que tout ça est anecdotique. Si on peut récupérer 1 milliard par-ci, par-là, bon, ça peut servir ailleurs, par ailleurs. Et alors là, il a égrené des chiffres qui sont... Je les donne parce que pour ceux qui nous expliquent que c'est vraiment rien. Donc on a 400 millions de fraudes aux allocations familiales qui sont détectées. C'est 50 millions de plus que l'année d'avant. Un montant moyen des fraudes à la CAF qui est de 8 000 euros. Contre 7 500 euros l'année dernière, mais 8 000 euros de fraude individuelle à la CAF, c'est pas rien, je suis désolée. Il y a également des fraudes à la résidence, on l'avait dit, faire croire qu'on est résident français quand on ne l'est pas. Il y a un doublement des sommes recouvrées sur ce terrain avec 97 millions d'euros qui ont été récupérés et une hausse de 20%, alors là c'est les fraudes, ils ont constaté une hausse de 20% des fraudes à l'assurance vieillesse. Par ailleurs, 450 millions de fraudes détectées à l'assurance maladie. Et là, encore une fois, j'explique que ce n'est pas la chasse aux pauvres, puisque en l'occurrence, c'est des facturations d'actes fictifs. Donc là, encore une fois, c'est des réseaux et des professionnels qui se rendent coupables de cette fraude. Des fraudes dans les centres de santé, on en a quand même 21 centres qui ont été déconventionnés cette année, donc pour lesquels la fraude a été prouvée. On a 11 millions d'euros détectés de fausses ordonnances et 5 millions d'euros de faux arrêts de travail qui sont vendus sur Internet. Donc c'est toujours une bonne chose, en fait, en découvrant un peu tous ces détails, on va dire, qui ont été expliqués par Gabriel Attal, que en effet, la pieuvre fiscale qui s'installe dans nos vies, pour reprendre l'obsession de Mathieu Bock-Côté, qu'au minimum, elle soit accompagnée par une vérification de ce à quoi sert cet argent et que la redistribution soit au minimum juste, quand bien même elle est discutée sur le terrain politique, qu'au minimum celle qui est décidée et votée soit faite correctement, d'autant qu'on sait que les recouvrements, et alors là c'est sur la partie URSSAF sur laquelle Gabriel Attal et surtout l'actuel, son successeur, ont annoncé des prochains durcissements dans les semaines à venir, donc je ne connais pas le détail hein, par principe, mais là les fraudes URSSAF sont fortes et les recouvrements sont inexistants. Donc ce sont des fraudes qu'on détecte, mais de l'argent qu'on ne récupère pas, donc il y a encore énormément de travail et c'est pas plus mal qu'on s'en occupe des deux côtés en même temps, ce qui évite d'expliquer que...
Très important d'en parler parce que peu de personnes en parlent. Gabriel Attal a également jugé, Charlotte Dornelas, que la fusion des cartes d'identité est vitale, était une priorité absolue.
Alors ça, c'est vrai que Gabriel Attal en avait parlé l'année dernière aussi. Il avait fait réagir notamment le ministère de l'Intérieur, parce que vous savez, le ministère de l'Intérieur est chargé de délivrer les cartes d'identité. Donc lui plaidait plus pour une carte vitale biométrique, à ne pas confondre avec la e-carte vitale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une question. Il ne voulait pas lier l'identité à cette carte vitale. Mais Gabriel Attal a clos le débat en disant « Je sais que l'année dernière, tous les ministères n'étaient pas pour, mais voilà, désormais, je suis premier ministre. » ministre. Oui. Fermez le banc. C'était dit aussi clairement que ça. Excellent. Donc je le dis aussi clairement qu'il l'a expliqué. Mais c'est surtout à l'époque, on avait vu l'assurance maladie s'y opposer. Et alors là, j'ai relu l'argumentaire de l'assurance maladie à l'époque, où il y avait un dossier qui avait été fait. Ils émettaient de très fortes réserves en expliquant que ça ne réduirait pas la fraude. Et que par ailleurs, la fraude n'existe pas vraiment à la carte vitale, j'entends. Hein, je les cite, les montants de fraude susceptibles d'être liés à une utilisation frauduleuse de la carte vitale sont minimes. Alors là, en l'occurrence, vous savez, coupler la carte vitale et la carte d'identité, ça permettrait d'éviter que vous prêtiez votre carte vitale à quelqu'un qui s'en serve, tout simplement en fraudant. Donc c'est par un autre. Mais il y a aussi le sujet des cartes vitales surnuméraires. Vous savez, ces cartes vitales de Français qui n'existent pas. Et donc c'est là où, l'assurance maladie a un problème de communication, je pense, hein, parce que moi je veux bien les croire. Mais vous vous souvenez, on en avait parlé aussi ici dans un rapport de 2020, la Cour des comptes avait donc interrogé les administrations et avait relevé surtout que pour 67,1 millions d'habitants à l'époque, on avait 75 millions d'assurés. Donc de cartes vitales en France. Donc il y avait un hic.
La Cour des comptes.
Rappelons-le. C'était la Cour des comptes en 2020. Et elle nous apprenait en 2020 et l'année dernière que les administrations refusaient de donner le nombre précis de cartes vitales par année de naissance. Donc en même temps, les administrations nous expliquent qu'il n'y a pas de surnombre et donc qu'il n'y a pas de fraude, de risque de fraude, on va dire que c'est minime. Et ils refusent de donner les chiffres très clairement qui permettraient de casser le fantasme, ce qu'ils décrivent donc comme un fantasme. Je suis toujours très étonnée parce que le meilleur moyen de répondre à des gens qui s'imaginent des choses, c'est de leur apporter la preuve. Apparemment, ils l'ont, ils sont les seuls à l'avoir et ils refusent de la transmettre. Ça attise la curiosité, on va dire. Et bon, Gabriel Attal a annoncé ça de plusieurs autres annonces, notamment le renforcement de personnel. Il a mis beaucoup de monde, il a créé plusieurs postes sur cette question de la traque de la fraude, sur la surveillance et également, je vous en parlais, de l'URSSAF. Et sur l'URSSAF, il va y avoir un gros sujet de récupérer l'argent une fois qu'on a détecté les différentes fraudes.
Merci beaucoup.
En progrès, comme diraient les professeurs.
Work in progress. Ah, ok, je sors. Progress. Non, mais c'est intéressant de suivre effectivement cette évolution parce que ça révolte beaucoup de voir effectivement que ceux qui contribuent justement, de voir qu'il y a une fraude sociale qui existe. Et sur les. Vous avez beaucoup parlé des cartes vitales, etc. Vous pouvez lire la petite chronique que j'ai faite dans le journal du dimanche sur les cyberattaques parce que j'ai enquêté à ce niveau-là. J'ai fait un peu comme vous, ma Charlotte. Oui, j'ai essayé de vous imiter, j'ai enquêté, j'ai devant les gendarmes. Non, mais bon, ça fait peur quand même. Ces cyberattaques sur le net où on prend votre numéro de sécurité sociale, votre carte vitale, etc. Vous n'avez pas finalement les allocations. Finalement, on prend toutes vos coordonnées, mais pas votre RIB.
D'ailleurs, c'est une grosse question qui se pose, évidemment, mais quand vous avez 43 millions de données personnelles qui sont déjà sur le dark web, c'est sûr que ça devient un sujet un peu moins... Parce que les cyberattaques sont monstrueuses, hein, en effet, les données...
Et ciblent les services de l'État, les ministères, France Travail, etc., les hôpitaux, etc. Vous parlez des arrêts de travail, tout est concerné. Merci infiniment pour votre regard. On vous montrait une vidéo tout à l'heure, ce qui s'est passé dans le métro. Mathieu va nous en parler dans le détail, mais prenons les choses un peu plus larges, parce que c'est une méthode qui apparemment n'est pas autorisée par le droit. Je parle de l'exposition publique du visage des voleurs capté par vidéosurveillance. Mais demain, elle pourrait l'être si on suit la recommandation du député MoDem Romain Daubier. Est-ce qu'on peut y voir le droit accordé aux victimes de se défendre contre ceux qui les détroussent ? Et c'est l'objet de votre second édito.
Mathieu, ah oui, c'est le Parisien qui nous apprenait ça et franchement, c'est assez intéressant. Bon, je présente la scène qu'on peut s'imaginer. Vous êtes propriétaire d'un petit commerce, et là, quelqu'un chaparde ou quelqu'un vole dans votre commerce, une parka ou quoi que ce soit, vous l'avez sur vidéosurveillance, et là, vous en avez marre, mais marre, et qu'est-ce que vous faites, parce que c'est pas la première fois que ça vous arrive, vous décidez de diffuser la vidéo avec l'image, donc le visage, sur les réseaux sociaux, en disant, mais voilà qui m'a volé, je tiens à vous en alerter, et n'hésitez pas à me faire signe si vous en savez davantage sur eux. On comprend spontanément la réaction de l'homme qui fait ça. Pour l'instant, s'il le fait, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire, il peut même payer jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement s'il se permet de faire cela. Donc on comprend que c'est assez c'est grave. Si vous exposez votre voleur, vous pouvez être sanctionné. Il y a des associations de commerçants, notamment une qui est dirigée par Jérôme Jean, 52 ans, qui est à la tête du collectif Ras-le-vol, qui dit... Nous devons aujourd'hui utiliser cette pratique. Nous devons utiliser cette pratique parce que c'est une forme d'autodéfense pour les commerçants. Autodéfense sans violence, autodéfense sans armes, autodéfense sans agression, mais autodéfense en disant au moins nous allons exposer nos voleurs, nous allons exposer les chapardeurs, ils seront connus de tous. Hein, c'est presque l'ancienne méthode, mais reprise par la société civile du Far West, hein, Wanted. Là, on a la tête du type en disant, ben voilà celui qui... Et voilà, bon, ensuite, ça venait avec une récompense à l'époque si on l'attrapait. Là, donc, il y a ce député, Romain Daubier, un député modem, ça vaut la peine de le préciser, qui se porte à la défense des commerçants en voulant mettre à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. C'est pas encore le cas, mais il veut mettre à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale un projet de loi qui donnerait aux commerçants le droit d'exposer le visage de leurs voleurs. J'ajoute une chose, parce qu'on prend la peine de dire dans l'article du Parisien avec raison, on n'est pas ici devant des coups à la mitrailleuse, hein, c'est pas la AK-47, c'est pas le banditisme dont on parle souvent. Mais ce sont des petits délits qui pourrissent la vie véritablement. Vous êtes un petit commerçant, vous n'avez pas des moyens immenses, et là, on vous vole une partie de vos ressources, vos chiffres d'affaires. Et bien là, ça donne la possibilité, autrement dit, de contre-attaquer sur ces petits larcins, ces petits délits, mais qui gâchent la vie de tant de personnes. Et je me permets de faire un lien avec ce qui s'est passé à New York dans les années 90, quand Rudy Giuliani, qui était le maire à l'époque, avant des années plus compliquées ensuite, le maire Giuliani avait établi la théorie du carreau brisé. La théorie du carreau brisé, ça disait il n'y a pas de petit délit. Si vous brisez un carreau de vitre, si vous brisez une fenêtre, eh bien, vous, dans les faits, vous commettez un acte qui vient abîmer l'ensemble du lien social, et dès lors, vous allez payer. Il n'y aura pas d'excuse, il n'y aura pas de discours de justification, il n'y aura pas de discours d'apitoiement. Vous commettez un crime, vous commettez un délit, vous commettez un larcin, ben vous allez payer tout simplement. On pourrait voir là-dedans une forme de théorie, d'application de la théorie du carreau brisé à la vidéosurveillance. Notons, cela dit, que ça acte de l'impuissance de l'État. Les gens décident de se faire justice eux-mêmes parce que l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité des uns des autres et des commerçants.
Alors, les commerçants avaient déjà exprimé leur désir de publier les photos et vidéos de délinquants. Maintenant, c'est le commun des mortels qui a un recours.
Ouais. Et ça, c'est une scène qu'on faisait, vous l'avez montré avec raison en tout début de l'émission, dans le métro de, je crois que c'était à Paris. Donc la scène est la suivante. On est dans le métro, une dame se fait voler son portable.
Jusqu'ici, assez classique. Scène banale.
Non, mais la vie ordinaire en France en 2024, c'est-à-dire la possibilité de se faire voler son portable dans le métro. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la femme, par différents, j'évite le détail, vous pouvez regarder la vidéo si on le souhaite, parce que c'est une vidéo j'en parle parce que ça a beaucoup tourné, c'est devenu viral. Oui. J'ai pas l'habitude de m'attarder sur
les
vidéos virales.
On va la regarder nouveau, et on va voir comment, grâce justement aux personnes qui sont dans le métro, allez, on regarde. Elle a réussi à récupérer son portable.
Mais il est là, je crois, il est tombé.
Il est là.
Il est là où?
Ça sonne, on ne voit pas. Relancez le numéro.
Silence.
C'est le monsieur, il est là.
Monsieur, mettez-lui le téléphone.
Donne-moi mon téléphone.
Non, donne-moi le téléphone.
Bon, on ne sait pas pourquoi il dit c'est pas ma monsieur, c'est Ramadan, mais c'est intéressant.
Je confesse un étonnement devant cet argument. C'est carême, c'est Ramadan, je ne sais pas exactement. Quoi qu'il en soit.
On va souligner la solidarité.
Mais voilà. Et là, il y a une solidarité, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si on voit la scène au complet, à la fin, le type qui avait pris le téléphone voit qu'on le filme et dit ne me filmez pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le commun des mortels aujourd'hui a compris qu'une arme d'autodéfense, et je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis que c'est dans la tête des gens. Filmer l'agresseur, filmer le chapardeur, filmer le délinquant, filmer le voyou, c'est une forme d'autodéfense, non pas autorisée, mais spontanée des gens aujourd'hui. Donc c'est pas permis, encore une fois, on n'a pas le droit de diffuser.
C'est une arme.
Et puis on peut se désoler, soit dit en passant, de la société de surveillance généralisée qui s'impose, où n'importe qui peut vous filmer en toutes circonstances dans le métro. Et moi, je suis le premier à être terrorisé par cette surveillance généralisée.
C'est pour ça qu'on a flouté, d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qu'on voit derrière ça? C'est quand l'homme ordinaire ne croit plus à la justice de l'État, quand l'homme ordinaire ne croit plus qu'on assurera sa sécurité, il décide de prendre ça en main à sa manière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à montrer quelquefois le visage de celui qui s'est permis de voler le bien d'autrui.
Merci infiniment, Mathieu. Merci à tous pour cette formidable émission. J'aimerais qu'on se penche sur un sujet demain. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Giorgia Meloni, elle a quand même réussi à faire baisser l'immigration de 70%. Personne n'en parle. On va chercher à creuser un peu tout ça demain. L'heure des Pro 2. À demain.